Et salut, très rapidement, si tu aimes le podcast et que tu veux le soutenir, n'hésite pas à partager les épisodes autour de toi, à mettre 5 étoiles partout où c'est possible, à commenter sur ton appli de podcast et à me rejoindre sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, TikTok et LinkedIn. Merci.
Avec quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées et après j'ai pleuré.
Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour l'affranchir du modèle patriarcal. Bonjour, aujourd'hui je reçois Clémentine Sarlat. Elle est journaliste sportive de formation, professeure diplômée de yoga pré- et post-natal, et elle a aussi créé le podcast La Matrescence, un podcast important pour moi puisqu'il a été une vraie source d'inspiration et de motivation pour créer le mien. Aujourd'hui avec Clémentine, nous allons parler de parentalité, de sexisme, un petit peu de sexualité. Il me semble important de vous préciser que nous enregistrons cet épisode le jeudi 9 juillet 2020, quelques jours seulement après un remaniement du gouvernement sous la présidence Macron, avec la nomination comme Premier ministre de Jean Castex, et surtout la nomination à l'intérieur de Gérald Darmanin et à la justice de Éric Dupond-Moretti, deux personnes qui sont clairement identifiées comme étant sexistes et pour l'un homophobes. C'est donc dans ce contexte que nous allons évoquer le sujet du sexisme au travail, dans la rue, dans l'éducation, dans la parentalité. Je tiens à remercier Clémentine pour cet excellent moment, et je vous souhaite à toutes et tous une bonne écoute. Bonjour Clémentine.
Salut Cédric.
Merci beaucoup d'être là, je suis vraiment ravi de te recevoir dans mon podcast. Toi que j'ai tellement écouté pour apprendre plein de choses, toi qu'on a tellement écouté, ma compagne et moi, pour apprendre plein de choses dans la matrescence, je suis vraiment ravi de te recevoir. Je voulais commencer par une question assez simple, mais tellement complexe en même temps aussi. C'est comment s'est passée ta découverte de la parentalité ?
Ah ouais, tu m'attaques direct par une question. Merci en tout cas, c'est gentil, mais merci de me recevoir. Je suis hyper touchée de voir qu'il y a des pères qui prennent la parole et surtout qui ont compris ce que c'était le patriarcat. J'ai envie de te dire, j'en connais pas beaucoup.
Donc, c'est un gros parcours, hein, un gros parcours.
J'imagine. Ma découverte de la parentalité, j'avais, comme beaucoup de parents, plein d'idées. Et je pense aussi surtout parce que j'étais... Il y a ma fille qui nous a rejoint. J'ai été animatrice en colo pendant très très longtemps. Donc, je m'occupais d'enfants. J'ai le BAFA et j'ai toujours adoré les enfants. Et je savais que j'avais je ne sais pas si c'est un don, mais en tout cas, j'ai beaucoup de patience avec les enfants. Donc, je savais que j'étais à l'aise avec ça et que quand on était chez des amis, enfin dès qu'il y a des enfants, je me sentais bien. Donc, je partais avec un a priori très positif, en tout cas sur ce que c'est l'enfance. Et surtout aussi parce que mes parents nous ont toujours raconté à ma sœur et moi que c'était génial l'enfance. Donc, je pense que ça est très important comment nos parents nous racontent notre enfance, nous parlent de notre enfance pour ne pas se dire « Oh, ça me fait chier les enfants, on part en week-end et il y a des enfants. » Enfin, voilà. Non, j'avais jamais cette impression-là. Et d'ailleurs, le déclic pour faire un enfant qui est venu de moi, puisque mon conjoint, lui, il était prêt avant moi, c'est parce qu'on a passé un week-end chez un ami qui a deux filles et j'ai passé le week-end avec ces deux filles qui sont grandes, hein, c'était pas des petites, donc j'ai vu quand même la partie un peu plus simple. Et je me suis dit, mais moi, c'est ça que je veux, je trouve ça génial en fait, j'adore la vie de famille. Donc j'avais sur la parentalité quand même déjà beaucoup d'idées positives. Elles étaient des idées reçues, mais au moins c'était des idées positives, donc ça c'était chouette. Et puis, quand ma fille est née, c'est pas du tout que tout a volé en éclats, mais la dimension que ça a pris, elle était tellement forte, ça m'a tellement consommée de l'intérieur, cette façon de voir la parentalité, c'était devenu toute ma vie. Et ça fait très bizarre, en fait.
Ah oui, c'est intense.
Ah, c'est intense, oui. Mais c'est un peu pour ça que j'ai créé la matrescence, j'étais pas prête à cette intensité-là. Je pense, tu sais, on te dit, tu verras, c'est inexplicable, l'amour. C'est vrai, mais tu ne peux pas comprendre ce que ça fait dans ton cerveau, en fait. Le changement que ça opère en toi. Je pense que ça ne le fait pas à tout le monde au même niveau, mais en tout cas, en moi, ça a été tellement puissant que c'était fou quand ma fille est née, quand Ella est née. Ella, écoutez-moi, elle écoute.
C'est marrant ce que tu dis, parce que tu vois, ça me met... Clémentine me voit pour info. ça met des frissons en fait, parce que ça me rappelle ce que moi j'ai ressenti. Et c'est totalement tel que tu le décris, en tout cas, moi, c'est vraiment la première fois. Alors, je l'ai déjà dit, hein, mais je le dirai autant de fois qu'il faut. Mais la première fois que j'ai pris ma fille dans les bras, que je l'ai eue, si tu veux, j'ai ressenti cette espèce d'amour incroyable, mais un truc que j'aurais même pas imaginé ressentir de ma vie, m'envahir. Et c'est en effet ce qui a fait sauter, en ce qui me concerne, enfin. Ce qui a fait sauter, ce qui m'a poussé en tout cas à réfléchir sur, attends, mais c'est quoi la parentalité? Tu vois, notamment sur les violences éducatives ordinaires, je me disais, c'est pas possible de ressentir un tel amour et de mettre une gifle à son gamin. C'est pas faisable.
Ah, ça, je suis d'accord avec toi. Après, moi, sur ça, c'était un des seuls, tu vois, par exemple, c'était un des seuls points sur lesquels on avait discuté avec mon conjoint où je lui avais dit, il y a un truc pour moi, c'est rédhibitoire, on ne tape pas nos enfants. C'est vraiment, c'est quelque chose, c'est inconcevable pour moi. Je pense que lui, il n'y avait même pas réfléchi, il ne savait pas trop, mais moi, c'était ancré en moi. Et comme tu dis, c'est animal quand on a notre bébé. Et moi, quelqu'un voulait le toucher, l'approcher, j'avais la sensation qu'il allait lui faire du mal. Donc déjà, j'étais dans cette relation très primitive, de ce qu'on dit maman louve ou peu importe, je peux ressentir très fort ce truc animal, c'est vrai, qui part au fur et à mesure quand même, même si c'est un truc différent, mais quand ils sont tout petits. Et moi, j'étais comme toi. Quand je suis sortie de la maternité, ma mère m'a offert le livre de Catherine Guéguin et d'Isabelle Fillosa. Donc c'est les deux premiers livres que j'ai lus tout de suite quand j'allaitais. Enfin, dès que j'avais du temps, je lisais avec elle. Et c'était encore plus fort, je pense, de le lire à ce moment-là, parce que t'es tellement dans un truc à fleur de peau archaïque que tout fait sens quand tu lis leur livre. Tu te dis, mais comment on peut maltraiter des enfants, en fait? Mais après, j'ai pris beaucoup de recul par rapport à ça aussi, parce que je jugeais beaucoup les parents. Et je me suis rendu compte que ben, moi, j'ai une longueur d'avance énorme qui est due au fait que mes parents m'ont élevée sans violence. Et bah ça, j'ai rien eu à déconstruire. J'ai juste eu à continuer ce que mes parents m'avaient donné. Donc, je comprends très bien aujourd'hui la difficulté que c'est de devoir déconstruire quelque chose qui a été ancré en nous, c'est des empreintes dans le cerveau qui font mal, qui sont fortes. Ça m'empêche pas des fois de perdre patience avec ma fille, même si quand même, je pense que ça va. Mais ça me viendrait jamais à l'esprit de lui faire du mal. Et j'imagine bien que quand on t'a fait du mal enfant pendant des années, bah, ce réflexe, moi tout de suite mon cerveau il se met en mode elle fait pas exprès, elle est petite, ça va passer. Et du coup j'arrive à prendre du recul, je vois bien que pour mon mec des fois c'est plus dur, pas parce qu'il a été tapé ou quoi que ce soit, mais parce que la patience, se mettre à sa place, tout ça, il a beaucoup plus de mal. Moi ça, je pense que c'est dans mon ADN juste par la façon dont mes parents m'ont élevé.
Alors c'est sûr, c'est sûr que le fait d'avoir eu des parents qui t'ont élevé sans violence et avec, de ce que je comprends, une certaine proximité, un certain respect, c'est clairement une longueur d'avance et puis une chance par rapport aux générations qu'on évoque. Hein. Ça n'a pas été le cas de tout le monde. Là, je parle pas non plus de grosses maltraitances, mais les violences psychologiques et physiques type claque fessée, il y en a quand même eu un paquet.
Notamment, ah bah, c'est en tout cas, la plus grosse majorité, hein. Je crois que c'est 80% les chiffres. Donc.
Ouais, exactement. On est dans cet ordre-là. Et donc, c'est quand même énorme. Ouais. Malgré la loi qui vient de passer, c'est quand même énorme. Mais c'est quand même super chouette de démarrer comme ça. Moi, je sais que ça a été une grosse... j'ai souvent tendance à dire que paradoxalement, ça a été une grosse claque. Moi, ça a été le documentaire de Marion, même qu'on a ma table, hein, qui m'a réveillé. Et après, il y a eu plein d'autres sujets, tu vois. Il y a plein d'autres sujets que pour le coup, toi, tu te traites, t'as traité aussi dans ton podcast. Et la question que je vais te poser maintenant, c'est qu'est-ce que ça t'a apporté de découvrir tout ça? Qu'est-ce qui a le plus évolué par rapport à ta vision de l'enfant, du développement de l'enfant depuis que t'es maman et surtout depuis que t'as développé toutes ces interviews, ces connaissances, cette expérience accumulée avec la matrescence?
Bah en fait, tu vois, je pense que c'était en moi parce que ma mère est vraiment... C'est elle, tu te dis, qui m'a offert ses livres. Donc quand même, c'est pas anodin. Mais j'avais pas mis des mots, j'avais pas mis des concepts. Tu vois, je pense que j'aurais été capable de dire qu'un enfant, il fait un caprice. Alors qu'une fois que j'avais lu les livres, ah non, mais plus jamais je peux utiliser ce mot et ça m'irrite quand les gens le font. Donc par rapport à ça, tu vois, j'ai moins évolué. Je sais que par exemple, sur le sommeil, j'ai énormément appris. Là, pour le coup, mes parents, ils m'ont rien transmis par rapport au sommeil. Ça n'avait pas l'air d'être un problème, mais en fait, ils ne faisaient pas de cododo. On était quand même dans les années 80. C'était c'était quand même pas des sujets dont on parlait. Là, c'était l'avènement de chacun sa chambre, tu vois. Donc, on était sur le sommeil, j'étais très perdue, même si ça, je le raconte et je le raconterai toujours, tu vois. La veille d'accoucher, j'ai dit à mon mec, non, c'est mort, elle dormira pas dans notre chambre, je veux pas que ça change notre couple. Bon, j'avais pas accouché. Hein. 24 heures après, c'est 24 heures après, comme si dans mon cerveau, tout avait changé. J'ai dit à mon mec, mais plus jamais, elle dort loin de moi. Mais vous l'éloignez même pas de 10 cm de moi. Et c'est marrant parce qu'on avait eu cette conversation avec ses parents et avec mes parents juste avant. Et nos deux parents nous avaient fait dormir loin. Et pourtant, mon beau-père disait à mon conjoint qu'il se levait toutes les nuits, il passait 2 heures devant le berceau à regarder. Tu vois, je lui disais, mais en fait, c'est illogique qu'ils auraient juste dû le mettre dans la chambre et il aurait mieux dormi. Mais après, en 24 heures, j'ai senti ce changement sur ça et j'ai appris plus tard, par exemple, tu vois, dans ma formation de yoga pré- et post-natal avec une sage-femme que dans la littérature ancienne et sur les cultures qui sont beaucoup plus primitives et qui ont totalement raison, en fait, on dit que la maman, elle ne doit pas être plus loin que la taille du cordon ombilical pendant les 4-5 premiers mois. Et pour moi, ça fait tellement sens, ce truc-là, parce que pour moi, c'était quasi physiquement impossible d'être loin d'elle. Ça, je ne m'y attendais pas. Donc après, sur tout ce que j'ai appris, ouais, le sommeil, et tu vois, l'épisode que j'ai fait avec Florence de Bébé Occam qui parle du sommeil, j'avais déjà appris plein de choses, mais ça a été un autre niveau. Et j'ai galéré avec ma fille. Il y a eu 2-3 fois où je l'ai laissée pleurer 5 minutes à l'extérieur de sa chambre. Moi, j'étais à l'extérieur, je restais. Hein, mais parce que je disais, mais qu'est-ce que je dois faire? Je comprends rien à ce qui se passe, en fait. Avant, elle s'endormait en 2 secondes. Tu sais, il y a un moment où ils switchent, où bah, ils comprennent qu'on s'éloigne, en fait. Moi, je n'avais pas du tout compris ça dans son développement. Et j'ai lu le livre « Dormir sans larmes ». Et là, j'ai fait, ah, non, mais c'est logique, en fait. Et en fait, tout ça, ça te dit, mais dans quelle société on vit, en fait? Comment on maltraite nos enfants sous prétexte que l'individu est supérieur à tout et l'adulte, ça m'a choquée. Et ça m'a choquée de moi d'avoir eu ces réflexes-là un peu, tu vois, de me mettre moi... Ouais. Ouais, tu fais comme on peut.
T'as aussi ton héritage.
Ouais, non, mais clairement, donc... Et après, il y a tous les ateliers à la parentalité que j'ai fait qui ont été des révélateurs énormes, que je recommande à tout le monde de faire, même si quand tout va bien, c'est même pas le souci, c'est magique, ces ateliers. On devrait tous, ça devrait être obligatoire, en fait. Bon, on n'y est pas.
Ça devrait, en effet, malheureusement, on y travaille aussi, mais ça devrait, en effet, faire l'objet d'un parcours de la parentalité, tu vois, parce que finalement, on est là, on devient parent, tu vois, et puis c'est pouf, comme si on devait tout à coup tout savoir, tu vois. C'est logique, c'est bon, t'es parent, quoi. Bon, allez, on va te montrer comment changer une couche, et puis après ça va, c'est technique, en fait.
Mais
non, c'est beaucoup plus que ça. Et c'est vrai que ça peut ne pas être évident tout de suite. Donc, moi ce qui me parle dans ce que tu dis, ce que j'aime beaucoup, c'est la notion de continuer d'apprendre, même quand ça va bien, tu vois, de continuer à se renseigner. Parce que c'est aussi une manière de se rassurer sur ce qu'on fait, et puis de découvrir des choses qu'on fait pas forcément. Et c'est surtout cette notion de faire de son mieux, tu vois. Moi, c'est souvent, avec les parents qui discutent, c'est souvent ça qui ressort, c'est non, mais on fait juste de notre mieux, en fait, avec les moyens qu'on a, avec le temps qu'on a. Tant que l'amour est là et tant que la volonté d'avancer est là, c'est quand même... Personne peut attendre autre chose de nous, en fait, tu vois.
Non, c'est sûr. Après, pour moi, je fais une différence sur le « on fait de notre mieux » et « on est conscient de nos erreurs » et « on s'excuse ». Parce qu'il y a beaucoup de parents qui disent « bah ouais, je fais de mon mieux ». Ok, je l'entends tout à fait, et je pense que c'est des points de discorde qu'on a avec mon mec. C'est juste que, ok, tu fais de ton mieux, mais explique-lui. Explique à ta fille que quand tu fais de ton mieux, bah, c'est que t'es pas capable pour l'instant de faire différemment, que c'est pas idéal, mais tu peux t'excuser, tu peux revenir. Pour moi, il y a vraiment une différence là-dedans par rapport au respect qu'on peut avoir envers l'enfant, en fait, donc envers un être humain. Et je pense qu'il y a malheureusement beaucoup de parents qui n'ont pas été habitués à pouvoir s'excuser, qui ont la sensation que c'est une faiblesse, que c'est quelque chose qui va trahir leur relation d'autorité, tout ça. Non, en fait, c'est leur humanité qui se montre. Donc, si on apprenait tous à s'excuser dès l'enfance, punaise, le monde du travail, il serait plus cool. Et le monde tout court, il serait quand même bien plus sympa, quoi.
Mais c'est super intéressant ce que tu dis par rapport à l'autorité. Moi, tu vois, moi, comment je l'ai compris, c'est que à partir du moment où il y a un enjeu de pouvoir qui se joue entre ton enfant et toi, c'est qu'il y a un truc
C'est mort, ben oui.
qui matche pas, tu vois. C'est ça. Déjà, souvent, c'est qu'il y a un vrai sujet de confiance en soi. Parce que très concrètement, l'enjeu de pouvoir, tu vois, moi, ma fille, elle a 2 ans. Avoir un enjeu de pouvoir avec une gamine de 2 ans, si je l'avais, c'est aussi parce que j'aurais extrêmement peu confiance en moi, tu vois. C'est ça qui ressort aussi. C'est qu'il y a toujours ce côté aussi, blessure, toi, tu l'as évoqué, blessure intérieure, enfant intérieur qui est là, qui est en nous, qui peut jouer, tu vois, et qui nous titille face à ces comportements. Et tu parles de ton mec, et ben, encore plus quand t'es un homme sur ce sujet-là, tu vois, de l'autorité, entre guillemets, parce que voilà, t'imagines. Mais attends, mais si jamais ma fille ose me répondre, ou si je fais preuve de faiblesse, mais je perds tout, je ne suis plus un homme, je n'ai plus de testicules.
Ah mais, moi, en plus, je le vis d'autant plus fortement que on n'a aucun souci à en parler, mais mon conjoint, c'est un ancien rugbyman pro, donc qui est un monde très, très viril et surtout ne jamais montrer de faiblesse, ne jamais montrer qu'on a mal ou ce genre de choses. Donc, appliquer à la parentalité, ça ne va pas du tout. Et donc, c'est une déconstruction permanente quand même qui est très difficile. Et tu vois, dans les relations que lui peut avoir avec notre fille, il est très vite touché dans son ego quand elle vient pas le défier lui, évidemment, mais c'est comme ça que lui le ressent. Et c'est difficile pour lui d'arriver à prendre ce recul et de ok, mais parce que toute sa carrière a été construite sur tu me provoques, je vais répondre. Tu vois, dans ses interactions
Ah oui.
humaines avec le rugby. Et c'est très difficile, et pour en parler souvent avec des rugbymen, pour en parler, enfin voilà, j'ai quand même beaucoup étudié la question parce que c'est ma double casquette, vu que c'est aussi mon autre métier.
Un petit peu ton sujet,
Ouais, voilà, non, mais
oui.
j'ai très vite pris conscience de la problématique, et c'est un vrai problème dans le monde du rugby tout court aussi, parce que sur l'après-carrière, c'est des gens qui ne savent pas exprimer leurs émotions, qui gardent tout parce que c'est mal vu, et c'est néfaste pour la vie de tous les jours au final. Et alors, ce truc de la virilité, je pense pas que mon mec il soit du tout dans cette notion-là, parce que c'est pas un... Bon, il est à 100 000 km de l'archétype du rugbyman un peu bourrin, c'est pas vrai, mais c'est ancré en lui par sa culture, il y peut rien. Et des fois, j'en discute avec sa mère. C'est drôle parce qu'elle me dit, bah ouais, mais il est parti à 14 ans en internat. Donc, tout ce que nous, on lui a donné comme éducation, derrière, à l'adolescence, on ne sait pas trop, comme il était qu'avec des mecs toute sa vie. Et elle me dit, ouais, je sais, mais c'est marrant, on en discute parce que le fait qu'il perde patience, elle me dit, il n'était pas comme ça, petit, il était. Mais ça, non, mais ça me fait rigoler parce que je vois bien comment l'environnement peut jouer aussi. Et moi, j'ai aussi évolué dans un environnement très masculin, mais ça m'a jamais empêché de voir que les relations d'ego et de confrontation, même entre adultes déjà, c'est pas mon truc, je n'aime pas ça. Donc, alors avec un enfant, mais jamais de la vie, quoi. Enfin, et puis, tu sais, des fois, je pense que ça doit faire ça aussi, mais quand je vois ma fille, elle a avoir 3 ans, donc la phase d'opposition, enfin tout, c'est sa personnalité, bien sûr qu'elle a le droit de dire non. Mais quand je revois comment elle était fragile, petite, tout ça, je peux même pas me dire je vais m'opposer à elle et lui faire du mal, en fait. Enfin, j'ai toujours cette vision, c'est mon bébé.
Ah
Alors,
mais oui, mais complètement.
tu vois, et alors évidemment, ça ne veut pas du tout dire qu'il n'y a pas de limite. On lui explique tous les jours qu'il y a des règles. Et il y a un conte que j'aime beaucoup qui s'appelle Janet Lansbury, qui est une psychologue américaine, et qui met sur Instagram souvent des phrases, et qui a écrit une phrase qui me reste là à vie, qui dit: vous, ça fait probablement 30 ans que vous êtes sur Terre, que vous connaissez les règles qui se passent. Votre enfant, dites-vous que ça fait 1, 2, 3 ans qu'il est en train d'apprendre les règles. Donc votre enfant ne connaît pas les règles. Et ayez de l'indulgence avec un enfant qui doit vivre dans un monde où ça fait que quelques mois, quelques années, et qu'il n'a pas tout le système en lui pour comprendre comment le monde fonctionne. Et en fait, à partir de ce moment-là, tu vois, avec ma fille, je lui dis, mais tu sais, mon cœur, c'est normal, tu comprends pas les règles parce que on est en train de te les apprendre, donc c'est difficile pour toi, là, tu n'y arrives pas, mais tu vas apprendre, je vais te la répéter, la règle, si tu veux, et on va en rediscuter. Et je lui dis, je ne m'attends pas à ce que cette règle, tu l'aies apprise tout de suite et que tu t'en souviennes. Tu peux me redemander, et tu as le droit de te tromper. Et ça m'a, mais cette phrase, elle m'est restée, de me dire, mais c'est tellement logique. Je veux dire, même
Ah
moi, à
ouais.
32 ans, je ne comprends pas tout. Et
Non mais c'est
j'aimerais
ça.
pas qu'on me rabâche toute la journée que j'y comprends rien. Et plutôt, j'aimerais qu'on me dise, bah ouais, tu viens d'apprendre, ça va venir, t'inquiète, tu vas l'intégrer. Et ma fille, elle est hyper attentive quand je lui dis comme ça. Elle me regarde, elle dit, ah, je comprends pas la règle. Je lui dis, oui, tu comprends pas là, mais tu vas l'apprendre, t'inquiète pas. Et elle se calme direct en plus.
Non, mais mais en effet, merci pour la phrase parce que c'est une belle phrase. Tu sais, ça me fait penser à ces moments où tu changes d'entreprise, où tu changes de métier, où tu rentres dans un autre univers professionnel. Souvent, on dit on est perdu, il faut un temps d'adaptation. Ben, pour les enfants, c'est comme ça pour
pendant
toute leur vie. C'est ça, c'est ça. Et en plus, avec un cerveau qui n'est pas mature, tu vois. Avec un environnement qui dans 90% des cas, n'est pas du tout adapté à leur morphologie. Enfin, moi, je trouve ça hyper dur, tu vois. Quand t'essaies de te mettre à la place de ton enfant, mais je trouve ça hyper dur.
Ah, mais je suis d'accord avec toi. C'est hyper. Moi, maintenant, tu sais ce que j'arrive à faire après avoir tellement lu, tellement vu le cerveau de l'enfant, le film, il est très bien fait aussi. Mm-hmm. Bon, il y a des super vidéos qui montrent exactement ce qui se passe dans le cerveau de l'enfant, plus le livre de Catherine Guéguin, tout ça. Mais maintenant, c'est comme si je voyais une transparence dans son visage et je voyais son cerveau. Où il n'y a pas ce cortex frontal, tu vois, et j'arrive tout de suite à me dire, bah là, elle n'y arrive pas, en fait. Elle n'y peut rien, ok, ça prend des proportions, c'est dur. Franchement, là, je n'ai pas la patience de gérer cette crise. Et oui, je n'ai pas mis le pinceau où il fallait, elle voulait l'autre, j'ai ouvert le volet, alors qu'elle ne voulait pas. Mais au fond, est-ce que moi, c'est important dans ma journée que... Non. Est-ce que pour elle, ça allait? Oui. Bon, bah, je respecte que pour elle, ça allait. Ce n'est pas grave. Mais j'ai un luxe énorme, c'est que j'ai du temps. Et je sais très bien, et je pense que le confinement a montré ça. Les parents qui ont pu ne pas travailler pendant le confinement ou ne pas télétravailler et qui ont eu du temps, ça change tout. Moi, je voyais le matin... Ben, on n'a pas à l'habiller, à la stresser, à lui dire « Allez, on y va ». Non, on prend notre temps, on le fait à notre rythme. Après, ce n'était pas simple de télétravailler, effectivement, parce qu'elle a besoin qu'on soit avec elle, tout ça. Mais tu t'en rends vite compte, dès que tu as du temps, et mon mec, ça, il l'a vraiment vu. Dès qu'il avait du temps, il me disait « Ah oui, ça change. » Je lui dis « Des fois, tu veux la forcer à faire des choses pour ton timing à toi. » Alors forcément, comme tu dis, le monde, il n'est pas adapté aux enfants. Et le confinement a montré que, en tout cas pour les familles dans lesquelles il y avait un environnement propice à ça, que la clé, c'est quand même le temps.
Mais complètement. Et c'est vrai que comme on est dans un monde qui va très vite, que ce soit professionnel, enfin tu vois, il faut toujours aller vite en ce moment. C'est vrai que de reprendre un peu avec cette période de confinement, d'avoir repris un peu un rythme où en fait, pour certaines personnes, t'étais en chômage partiel, donc t'avais rien à faire à part t'occuper de ta famille. Et tu redécouvres ces périodes où t'as du temps, où t'es pas stressé parce que sur ton week-end, il faut que tu fasses les courses, les activités, les machins, les trucs. Enfin voilà, non mais tu vois, tout se cumule. Et c'est ça qui est super intéressant. Et notamment pour des pères, tu vois, parce qu'il y a toujours ce rapport qui est compliqué entre du rapport au père par rapport au temps qu'il accorde et aux enjeux qui peuvent se passer en lui. Mais ce qui rassemble souvent les pères et les mères dans ces cas-là, c'est la question qu'on peut se poser et que tu viens d'évoquer, c'est quoi l'enjeu en fait? Tu vois, là, j'ai une situation. Qu'est-ce qui se joue? Qu'est-ce que je mets dans la balance?
Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est l'enfant?
Exactement. Est-ce que c'est un enjeu pour moi ou est-ce que c'est un enjeu pour l'enfant? L'enfant, généralement, ils s'en foutent parce qu'il y a quand même une grosse capacité de résilience. Mais c'est super intéressant, si tu veux, de se poser ces questions-là, quoi. Moi, en tout cas, je trouve ça génial. Et pour le coup, dans l'évolution, je dirais, de ta vision en tant que femme et en tant que mère, tu parlais du monde du rugby tout à l'heure qui est assez viril, on va dire, sans aspect péjoratif, on va dire viril. Et dans ton milieu professionnel qui était aussi quand même, de ce que j'ai compris, quelque chose d'assez masculin. Oui. Comment ta vision de la parentalité et l'arrivée de ta fille a pu changer tes rapports dans ton travail vis-à-vis de ces attitudes que tu pouvais observer, on va dire le mot, hein, de ces attitudes sexistes? Parce que moi, tu vois, par exemple, le fait d'avoir découvert les VO et de m'être ouvert l'esprit là-dessus fait que les autres attitudes inégalitaires ont été exacerbées.
Moi, ça a tout fait exploser. En fait, quand j'ai eu ma fille, donc je vivais à 100 à l'heure, clairement. Tu vois, je prenais l'avion toutes les semaines. J'avais une carte gold. J'étais dans un autre monde. Hein. J'ai voyagé dans 7 pays différents avec elle quand j'étais enceinte. J'étais pas du tout dans un mode tranquille. C'est une période sacrée, un peu particulière de ta vie. J'étais non, on y va. Et puis j'étais dans un environnement où je travaille tous les week-ends, donc je passe beaucoup de temps avec mes collègues finalement, et pas que juste 9h-17h, on va manger au resto, on voyage ensemble, donc forcément on aborde des questions avec la famille, tout ça. Et de ce que je voyais de mes collègues, c'est qu'il y en a quand même très très peu qui étaient impliqués dans la vie de famille, sachant qu'on travaille tous les week-ends, c'est compliqué. J'avais entendu maintes et maintes fois au bureau, moi je me fais chier quand je travaille pas le week-end, je sais pas quoi faire, ça me saoule mes gosses. D'autres qui disaient, moi je préfère mourir à la télé que d'aller m'occuper de ma famille de toute la semaine. Enfin bon, je vous invite à lire l'enquête de Mediapart sur le service des sports de France Télévisions. Vous pourrez comprendre très vite pourquoi c'est un environnement toxique et sexiste. J'étais pas en accord avec ça de toute façon de base, mais bon, après c'est leur famille, qu'est-ce que tu veux, voilà. Mais le truc, c'est que quand même, quand je suis devenue maman, je me suis dit, oula, mais en fait, ce que je ressens va être incompatible, clairement, avec ce mode de vie et cette façon de voir. Donc j'ai subi une discrimination quand je suis rentrée de mon congé maternité. Bon bref, ça a ajouté au fait que je me suis sentie extrêmement exclue et que j'étais pas du tout en phase avec ce qui se passait. Personne ne m'a dit ça va, comment va ton bébé, est-ce que c'est pas trop dur d'être loin. Bon, tout le monde s'en foutait, hein, clairement. J'ai pas eu un bouquet de fleurs en retour de mon congé maternité, ça c'est sûr. On m'avait changé de bureau et... Enfin bon, c'est un contexte très très délicat et fragilisant pour une nouvelle maman. Et surtout, ça n'allait plus du tout. Moi, j'ai vraiment ressenti ce truc. J'ai eu ma fille, c'était une bulle d'amour, mais tellement forte, tellement incroyable. Où enfin, j'avais plus ces rapports d'égo, d'hostilité, de critique qui sont le quotidien de mon travail à la télé. Et donc, j'ai eu une pause quand même de 3-4 mois comme ça. Et quand je suis revenue au travail, j'ai pris une claque. Je me suis dit, moi, je ne veux pas de ce monde, en fait. Je ne peux pas envisager évoluer là-dedans avec tout ce que ça m'a ouvert, cette nouvelle parentalité, ce nouvel amour. Ça n'a aucun intérêt, en fait, pour moi, de me mettre dans une situation de stress permanente alors que la vie, elle peut être simple. Quand on écoute les émotions des gens, quand on arrête de juger, quand on est bienveillant. Donc ça a été une transition très forte dans ma carrière de me dire, c'est même pas le rugby. Franchement, je vais être très honnête, les joueurs de rugby, ils sont hyper corrects, c'est des mecs très bien, hyper sensibles. On le sait, les sportifs de haut niveau sont des gens très sensibles, ultra sensibles. Donc en fait, beaucoup plus que la moyenne. Il y a de l'ego, certes, mais quand tu leur laisses la porte ouverte, ils sont beaucoup plus à l'écoute. Le monde du journalisme sportif dans la télé, pas du tout. Mais pas du tout. C'est un univers très, très difficile. Et en fait, le fait qu'il y ait eu discrimination envers moi, mon retour de congé maternité, sachant que je suis visible à la télé, ça a été quand même quelque chose de très fort de me dire « Ok, on en est là en 2018. Waouh, ok. » J'ai mis 6 mois à me dire « Non, je ne peux pas en fait, je vais partir. » Parce que je ne les changerai pas. Moi, quand j'ai expliqué à mon chef que mon retour de congé maternité était très violent dans la façon dont ils se sont comportés avec moi, il m'a dit « Oh, ça va, faut pas exagérer. » Alors, on n'était vraiment plus sur la même longueur d'onde, puisque autant de dire que moi, j'avais déjà commencé à apprendre comment on accueille une émotion, comment on accueille le sentiment de l'autre, qui n'a, on va dire, rien à voir avec soi-même. C'est-à-dire que c'est pas à moi de juger si c'est valide ou pas ce que l'autre sent. C'est juste à moi de dire, explique-moi, je suis là, raconte-moi. Surtout quand on a part d'un chef. Mais quand tes chefs te disent que ce que tu ressens, ils s'en foutent complètement et qu'en plus, ça n'a pas de valeur et qu'ils ont participé au fait que ça a été violent, d'ailleurs. Et je te jure, là, tu dis, non, j'avais demandé un jour de télétravail par semaine qui m'avait été accordé avant de partir en congé mat. Et quand je suis revenue, ils m'ont dit, non, mais tu comprends, ça va faire jaser dans la rédac. Donc, puis surtout, tu dis pas que c'est parce que t'as un petit bébé. Je dis, non, mais là, vous avez rien compris, en fait. Je vais vous donner les études suédoises, je vais vous montrer, vous êtes vraiment à la ramasse. Je dis, c'est exactement parce que j'ai un nourrisson, hein, on peut dire, j'avais un nourrisson à la maison, que je veux télétravailler. Enfin, il y a un moment, si vous comprenez pas que mon bébé qui a 4 mois, il a besoin de moi. On fait comment en fait? Et si tu veux, dans ce service, tous les mecs qui arrivent à 40 ans, ils divorcent parce que d'un coup, ils partent plus trop en reportage, ils restent à la maison, leur femme, elle les supporte plus parce qu'ils n'ont jamais été là. Et ils se retrouvent comme des cons à se dire ah, mais c'est quoi ma vie en fait? J'étais tout le temps au travail et je me suis occupée de personne. J'ai trompé ma femme dans tous les sens hein, parce que c'était la pratique commune dans ce service. Donc, c'était vraiment à l'opposé de qui je suis, tu vois. Et là, ça m'a explosé à la figure. Et je pense que je l'ai toujours su que ça m'allait pas. Mais tant que je n'ai pas eu ma fille, De tant que je ne suis pas devenue mère, je n'ai pas pu ni avoir le courage, ni avoir l'honnêteté avec moi-même de me dire c'est pas possible, c'est contre mes valeurs. Donc ça a été un vrai révélateur dans le sens positif du terme. Après, c'est compliqué à gérer parce que j'avais une carrière, parce que voilà, mais j'ai démissionné, j'ai dit non, salut, tant pis, je préfère passer du temps avec ma fille. Je ne sais pas l'impact que ça aura. J'étais prête à être mère au foyer, alors que ce n'est pas du tout ma vision des choses par rapport à moi-même. Hein, et j'ai aucun jugement à ça aujourd'hui, puisque tu vois, j'ai évolué là-dessus, vu que j'ai compris que moi, j'aurais eu envie de ça pendant quelques mois. Donc, après, c'est revenu, mon envie de travailler, mais c'est aussi parce que l'environnement dans lequel je travaillais était très dur. Et au final, aujourd'hui, tu vois sur mon podcast, mais j'aurais du mal à m'arrêter, je vais avoir du mal à m'arrêter pendant mon congé maternité, tu vois, mais parce que j'en prends un plaisir énorme et que c'est sain. Dès que c'est toxique, l'environnement du travail pour les mères, et malheureusement, ça l'est à mon avis dans plus de 50% des cas encore en France, bah c'est un vrai souci, quoi. Mais donc la parentalité, finalement, ça m'a sauvée. Enfin, franchement, je pense que ça m'a sauvée dans mon monde de professionnel et de comment je vivais ma vie. Ça a été une transition très difficile, mais j'en avais besoin.
C'est super beau ce que tu dis. Enfin, y a beaucoup d'émotions derrière. Il y a beaucoup, malheureusement, aussi de vérité. Hein. C'est dans le monde du travail aujourd'hui. Bon, on a ce que tu as vécu chez France Télévisions, c'est aussi ce qu'on peut vivre dans différentes grandes entreprises et grands groupes. Ouais. Je parle même pas des PME qui peuvent aussi avoir ces soucis-là, mais j'espère un peu moins. Mais c'est vrai que c'est vraiment ce qu'on peut rencontrer. Et tu vois, t'as une petite fille, j'ai une petite fille. Moi, je me dis, mais comment est-ce que je peux la préparer à ce monde-là, tu vois? Est-ce que c'est une question que tu te poses, toi, en tant que mère?
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Oui, tous les jours, tout le temps, que mon conjoint, lui, il se pose pas beaucoup, mais je lui mets des graines. Mais tu vois, cette question, elle s'est posée, et je pense que c'est pas anodin le fait que j'ai dénoncé 2 ans après cette pratique sexiste en étant enceinte. J'ai pas mesuré l'impact, donc juste je recontextualise. J'étais journaliste à la télé pendant 7 ans à France Télévisions. Quand je suis revenue de mon congé maternité, j'étais censée co-présenter une émission, donc Stade 2, on m'a dit « Non, mais tu comprends, avec les lumières et les caméras, ça ne va pas être possible. » Donc voilà, à 3 semaines de revenir à mon congé mat. Et donc, je suis restée 6 mois, j'ai démissionné. Et il y a, au mois d'avril, les journalistes de l'équipe m'ont posé la question « Pourquoi j'étais partie ?» Et « Est-ce qu'il y avait eu un MeToo dans le journalisme sportif français ?» Et donc, j'ai dit « Bon, quitte à parler, je vais parler. » Et donc, j'ai tout expliqué. J'ai expliqué le sexisme. Et je sais que je l'ai fait, pas pour moi. Je l'ai fait pour mes concerts, mais je l'ai fait pour que dans 20 ans, mes filles, puisque j'attends une deuxième petite fille, ne subissent pas ce que j'ai vécu et que ça s'arrête parce qu'il y a un moment, c'est plus possible. Et tu sais, c'est drôle parce que pendant 2 ans, c'est mon père qui m'a poussée, qui ne comprenait pas que je ne parle pas. Mon père a plein de défauts, mais c'est quand même quelqu'un de très, très engagé sur les questions d'égalité homme-femme, sur le plan du travail en tout cas. Et voilà, il ne peut pas le faire à ma place, donc il ne pouvait pas dénoncer pour moi. Mais j'étais trop faible, en fait. Je ne pouvais pas dénoncer ça. C'était tellement difficile. Vous pouvez taper mon nom dans Google avec ce truc à côté, vous verrez les centaines d'articles qui sont sortis derrière. J'ai déclenché un énorme buzz que je n'avais pas à mesurer. Ça a été très difficile à gérer enceinte. Mais au fond de moi, je savais que j'étais fière de moi. De me dire, ma fille, elle pourra se dire que sa mère a cassé un truc vicieux. Et j'ai eu raison de le faire, puisque derrière, le gouvernement m'a contactée, il y a eu une enquête parlementaire, donc j'ai répondu à des questions, ils ont déclenché encore un truc. Et la présidente de France Télé a déclenché une enquête interne sur tout le service des sports. Donc pour ça, je vous encourage à lire l'enquête de Mediapart, plus les articles qu'il y a dessus, mais celle de Mediapart est très très poussée et fouillée et révèle 100 fois pire que ce que j'ai pu dénoncer. Et c'était la veille que l'enquête sorte, je peux dire, j'étais très stressée. Et en fait, tu vois, cette question de la place du travail pour les femmes, je me dis que j'aurais contribué un tout petit peu à peut-être pas changer les mentalités, mais à mettre à jour qu'il y a un problème encore en 2020. Et on verra dans 20 ans, quand ma fille, enfin mes filles rentreront sur le marché du travail. Je suis un peu dubitative vu le gouvernement qui vient d'être nommé.
Ah oui, ça.
Mais, mais je me dis que j'ai fait ma part des choses et vu le nombre de. J'ai reçu des milliers de messages, je suis honnête, j'ai même pas pu tout lire. Et je me dis qu'il y a un vrai problème puisque j'ai reçu des milliers de messages de femmes qui disent merci. Et donc je me dis, bah, c'est le truc que j'ai pu faire pour elles, au moins, bah, ça sera ça.
Non, mais c'est ça. Et alors, c'est marrant que tu parles du gouvernement, c'est sûr que c'est un peu inquiétant. Moi, je vais aller manifester vendredi, hein, pour info. Mais oui, c'est un vrai sujet. Et c'est marrant parce que, tu vois, je me reconnais tellement dans ce que tu dis. Moi, j'ai vraiment eu ce sentiment de me dire, je dis quoi à ma fille dans 20 ans ? Si ça n'a pas changé, tu vois. Si ça n'a pas changé, à un moment, tu te projettes et tu te dis, elle va me regarder, ma fille, elle va me dire, mais attends, mais t'as pas vu ce qui se passait ? Bah si, j'ai vu. Et t'as fait quoi ? Tu vois, et là, au moins, on pourra dire, je dis pas qu'on va changer le monde, mais on fait partie de ces petites gouttes qui vont s'additionner, tu vois, pour essayer de balayer tout ça. Et en tout cas, ce que t'as fait, c'est fort, parce que ça demande un courage. J'imagine même pas, tu vois, tu dis que c'était difficile, mais j'imagine même pas tout ce par quoi t'as dû passer entre la souffrance, potentiellement aussi la honte d'avoir laissé faire, d'avoir subi, tu vois. Enfin, ça c'est vraiment tu utilisais le terme de violence, et je pense que c'est un terme qui est totalement adapté, parce que c'est vraiment des violences au quotidien. Les violences professionnelles, ça existe. L'emprise d'un travail sur quelqu'un, ça existe, et ça change aussi sa perception du monde, parce que si t'es pas bien, tu vois, pour faire le lien avec la parentalité, si tu te fais maltraiter dans ton travail, à un moment, tu vas préparer ton enfant à se faire maltraiter. Aussi, tu vois. Et ouais, c'est enfin, en tout cas, c'est un schéma que j'ai vraiment observé plein de fois. Et c'est ça qui est compliqué. Et au niveau de cette violence, et au niveau de cette violence de rue aussi qu'on peut observer, hein, parce que le sexisme ordinaire, il est malheureusement extrêmement répandu. La culture du viol, c'est pas un mythe, c'est un fait. Comment est-ce que tu prépares ta fille, et comment est-ce que, bon, tes filles maintenant, sur ces sujets-là, comment est-ce que tu vois, je dirais plutôt, quelle fondation tu mets en place pour les armées, entre guillemets, pour ces sujets-là ?
Ah, pour moi, ça a été un sujet dès le départ. Ça, par contre, c'était très clair dans ma tête. Je pense que depuis très longtemps, je suis armée et j'ai conscience des choses sur le féminisme. Et là, pour le coup, avec mon mec, c'est pas une question de on est à égalité, où il peut dire c'est moi je sais ce qu'il faut faire et il va devoir suivre ce que je vais lui dire, le pauvre, mais c'est comme ça.
Ça marche aussi, hein.
Bah ouais, mais parce que là, pour le coup, c'est moi je l'ai vécu, pas lui. Donc clairement, on a beaucoup de discussions face à ça, parce que moi, c'est très important que dès le départ, son corps il soit respecté. Donc ça a été quelque chose qui était complètement nouveau pour Clément. Quand elle dit non, elle dit non. Quand on lui répète tous les jours que c'est partie intime, il y a que elle qui peut les toucher si elle a envie, que nous on le fait quand on doit la laver vraiment parce qu'il y a besoin, mais qu'on lui demande, et quand elle dit stop, elle dit stop. Moi je lui répète tous les jours, ton corps c'est à toi. C'est triste de devoir faire ça, en vrai, parce que c'est un enfant, et parce que après ça lui apprend ses limites de son corps aussi. Mais si tu savais le nombre de situations où je me dis, mais avec les gens à l'extérieur, tu vois, bah, pas plus tard qu'hier, c'était son dernier jour de crèche, et elle est très très copine avec un petit garçon, ça ne m'a jamais traversé l'esprit de lui dire c'est son amoureux. Mais alors jamais, jamais, elle a 2 ans, elle a 3 ans, c'est juste qu'elle adore passer du temps avec lui. Bon, bah, très bien, ils ont 2 semaines d'écart, donc ils sont vraiment au même niveau de développement. Et ben, je discute avec le papa, je lui dis, oh, c'est marrant, à la crèche, ils disent qu'ils jouent que tous les deux, ils veulent même pas les autres, tu vois, ils sont dans leur monde. Elle dit oui, elle vous dit que c'est son amoureux J'ai eu un moment de non, ben non, parce que déjà, elle sait même pas ce que ça veut dire, on lui a jamais dit ce mot, tu vois. Ah non, parce que nous, il nous dit que c'est son amoureuse, hein. Non, à mon avis, il ne dit pas. À mon avis, c'est pas votre petit garçon qui vous dit que c'est son amoureuse. C'est que vous lui dites, ah, mais et là, c'est ton amoureuse. Ou potentiellement à la crèche, ils disent ça. Mais nous, là, on était complètement en décalé, tu vois, par rapport à ça. Et j'en ai parlé avec mon mec, il me dit, ah ouais, non, mais. Et là, il était d'accord. Il dit, mais pas du. Enfin, comment on sexualise d'entrée une relation amicale d'enfant qui n'a aucun rapport avec l'amour, je crois que c'est de l'amitié. Enfin, ouais, c'est des enfants, quoi. Ils jouent ensemble, ils sont contents. Et ça, comment tu veux expliquer? Enfin, Clément, on va avoir deux filles. Dès qu'on dit ça, tout la systématique, c'est systématique. La réaction des mecs, c'est « Ouh, tu vas devoir sortir les fusils. » Non, mais déjà, ça, ok. Ah bah, ça va être dur. Hein. Et alors là, et maintenant, Clément, il a vraiment compris ce truc-là et ça le choque. Avant, ça, je ne le marquais pas. Et il ne sait pas trop quoi répondre encore, tu vois. Mais moi, je dis « Mais pourquoi c'est un problème, les mecs ?» Moi, je rentre dedans. Je dis « Mais pourquoi? Parce que tu considères que vous êtes tous des enfoirés. Peut-être parce que c'est comme ça que tu te vois. » Et c'est là où je dis par rapport à ça, mon père est quelqu'un qui a 5 sœurs, qui a été élevé par 5 grandes sœurs et qui n'a jamais fait de différence entre femme-homme et qui nous a toujours déjà montré que les hommes sont des gens bien, en fait. Donc, je pense que ça, c'est très important. C'est bête, hein, mais...
Ça arrive, hein.
Non, mais c'est pour ça que les gens, parfois, ils me disent « Ah, mais t'es anti-homme. » Non, mais attendez, vous avez rien compris, en fait. Moi, l'image que j'ai des hommes depuis petite, elle est ultra positive. Parce que mon père est quelqu'un de très bien. Et en tout cas, avec les femmes, c'est toujours comporté de manière... Je n'ai jamais entendu une réflexion sexiste de la part de mon père sur le corps, sur la façon de s'habiller. Enfin, jamais. J'avais 14 ans, je voulais mettre des strings. Mon père, il s'en foutait. Hein, il ne m'a pas dit « t'es une pute et qu'est-ce que tu fais ?» Tu vois, vraiment. J'avais 16 ans, je voulais prendre la pilule. Mon père, il m'a emmené faire les tests sanguins pour prendre la pilule. Donc... cette relation-là que j'ai construite, moi, avec ma figure masculine, elle est hyper importante. Et c'est ce que j'essaye de faire comprendre à mon mec par rapport à notre fille. Des fois, mon mec, il dit pour rigoler, « Oh, c'est qui le chef ?» Moi, je ne peux pas ça. Je lui dis, « Ah non, je suis désolée. Je ne peux pas supporter que ma fille, dès 3 ans, elle entende « C'est qui le chef ?» depuis la part d'un mec. Je lui dis, « Qu'est-ce que tu veux qu'elle... c'est quoi son rapport aux hommes après ?» Alors, je pense que je suis très épidermique là-dessus. Avec lui, donc ça doit le saouler, mais il comprend, mais quand même il comprend, parce que je sais que ça ne passera pas que par moi en tant que femme par rapport à ma fille. Et j'ai une mère aussi, et ça je le dis parce que ma mère a toujours été tellement respectueuse des femmes quand j'étais jeune. Ça me marque parce que des fois les femmes entre nous on est les pires, je le sais, hein. Et ma mère a toujours dit, bah, si elle veut faire ça, elle fait ce qu'elle veut. Bah, si elle s'habille comme ça, elle fait ce qu'elle veut. Je n'ai jamais entendu avoir des phrases dégradantes envers des femmes. Et donc ça aussi, dans ma construction de la confiance en moi, de ce que c'est, c'était important. Après, je sais que ma mère, elle m'a expliqué, dès que j'avais 12 ans, bah, quand on t'emmerde dans la rue, tu souris, tu ne vas pas provoquer parce que ça peut dégénérer, tu ne dis rien. Et c'est triste, c'est tellement triste. Mais au fond, elle avait raison parce que ça peut être dangereux. De répondre. Ça peut être compliqué. Et tu vois, il y a une fois, on était au Portugal, ma fille, elle avait un an et demi. On était sur la plage, elle était en maillot de bain. Et il y a un mec bourré qui vient et qui commence à lui dire en anglais, « Ah, mon amoureuse !» Et alors moi, tout de suite, là, Et mon mec n'a pas compris. Je lui dis, « Non, mais là, t'entends pas ce qu'il dit ?» Il me dit, « Ah, il dit ça ?» Je dis, « Bah voilà, tu vois ce que c'est d'être une fille ? Dès un an et demi, t'as des hommes qui vont se permettre... de faire ce genre de réflexion sur une petite fille. » Et ça, tu vois, je comprends bien que mon mec, il ne l'ait jamais subi, vu quand moi, je me fais emmerder dans la rue, il n'est jamais à côté de moi, puisque c'est que quand il n'est pas là. Donc, il ne peut pas le voir. C'est très compliqué, en fait, cette prise de conscience de votre part à vous, les mecs. Parce que je peux comprendre que des fois, ça mette vachement de temps, puisque vous ne le vivez pas. Et parce que mon mec ne ferait jamais ça. Donc, tu vois, c'est... Il dit, « Oui, mais moi, je ne suis pas comme ça. » Je dis, « Oui, je comprends très bien. » Mais t'es pas la majorité.
Not all men.
Oui, je comprends, parce que dans sa construction mentale, il peut pas envisager de faire ça. Et je l'entends très bien.
Mais c'est hyper intéressant et c'est hyper fort ce que tu dis. Alors, il y a plein de choses. Pour le coup, juste sur le fait que ce soit difficile pour les hommes de comprendre, t'as totalement raison. Surtout maintenant, tu vois, quand tu fais le lien avec comment se construit un cerveau... Bah, concrète, mais ouais, mais on n'a pas des câbles. Tu vois, on en parlait avec Noémie Delattre dans mon épisode sur le sujet. On n'a pas les câblages, en fait, depuis tout petit. Tu vois, toi, tu dis à 12 ans, on t'a mis en alerte. Mais moi, à 12 ans, on m'a dit, la rue, elle est à toi, tu vois, fais ce que tu veux. L'espace, il est public, il appartient à tout le monde. Bah non, il appartient pas à tout le monde. Pas de la même manière, en tout cas, tu vois. Ça, c'est faux. c'est ce qu'on va dire à un homme, mais c'est pas ce qu'on va dire à une petite fille, tu vois. Ce qu'on va dire
à un petit garçon. Même on va rien vous dire à vous. Enfin, on va.
Mais oui, ou ouais, à la limite, quoi. C'est ça, quoi. C'est normal. Va explorer, mon fils. Tu es un explorateur. tu vois, et donc, il y a ce côté-là. Et c'est vrai que c'est dur parce qu'on n'a pas les câblages, quoi. Et puis, on a connu aussi toute cette période, tu vois, de masculinité un peu toxique où, voilà, il faut avoir des conquêtes, il faut être viril, il faut machin, bon. Tout ça, ça se discute. C'est super intéressant aussi ce que tu dis par rapport au fait qu'on ne peut pas se rendre compte, il faut être énormément à l'écoute. C'est marrant que tu dises que tu prends les commandes sur le sujet parce que c'est ce qui se passe chez moi aussi, si tu veux, moi. Combien de fois, maintenant j'ai compris, hein, maintenant j'ai compris, sur les sujets féministes et racisés aussi, parce que ma femme, ma compagne est racisée, dès souvent je dis, qu'est-ce que t'en penses, toi? Comment tu l'as vécu, toi? Parce que je suis incapable de m'en rendre compte, tu vois. Enfin, moi je suis un mec blanc, 1m93, qu'est-ce que tu veux qu'on m'en ait jamais emmerdé dans ma vie, tu vois. Et donc, c'est super intéressant, ce rapport-là.
Non, mais c'est génial ce que tu dis, toi. Enfin, moi, j'aimerais que tous les mecs viennent me voir, qu'est-ce que t'en penses, comment tu le vis. Non, mais sérieux, on ne vous demande pas vraiment plus, en fait.
Ben, on n'a pas le choix, parce qu'à partir du moment, tu vois, là, j'ai utilisé le « not all men », c'est t'as l'impression que c'est l'argument « ah, mais moi, je ne suis pas comme ça ». Alors déjà, si, je suis désolé de le dire à tous les hommes qui nous écoutent, mais si. D'une manière ou d'une autre, dans notre parcours de vie, on a participé à ça. Au jour, à date, en tout cas, je ne connais pas un seul homme qui n'a pas participé à ce système. Voilà, en ce qui me concerne, et j'en ai pas vu dans les médias. Donc il y a ça, donc si, on y a participé. Si, quand tu te fais emmerder tous les jours depuis ta plus tendre enfance, t'as le droit de te dire que les hommes, c'est un peu des connards, quand même, au fond. Voilà, t'as le droit, je pense. Et non, mais tu vois, et puis t'as pas la construction, c'est quelque chose qui est... Alors, après, je justifie rien, hein, mais c'est quelque chose qui est très difficile à mettre en place, en termes de raisonnement, tu vois. C'est une déconstruction de malade, tu vois, tu parlais du consentement, c'est quelque chose de super important. Là, quand t'as parlé de l'amoureuse, c'est marrant parce que j'ai eu la même réaction épidermique que toi concernant un des petits garçons avec qui ma fille est gardée chez la nounou. Pourtant, c'est une amie à nous, tu vois, qui a dit « Ah, ben alors, machin, c'est ton amoureux. » Et clac, je fais « Mais qu'est-ce que tu dis, là ?» Non, tu la laisses. Mais c'est pas une question de « Je veux pas lâcher ma fille ou quoi, tu vois, je suis pas en mode papa protecteur. » C'est juste « Non, c'est pas le sujet, t'as totalement raison. C'est pas le sujet, ils sont en train de jouer, foutons-leur la paix. » Mais c'est vrai qu'il y a vraiment ce côté, il faut éduquer nos filles comme des garçons. C'est-à-dire, le monde est à vous, c'est quelque chose qui est admis, en fait. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est admis, tu vois. Mais ce qui est dérangeant, c'est qu'à ce côté, on va les éduquer comme des garçons, tu vois. C'est-à-dire, on va limite, calquer, le fait d'être une femme... Ouais, mais ce qui est problématique, c'est que le fait d'être une femme, comme c'est pas assez bien, on va leur donner une éducation comme des garçons. Et ça, c'est difficile. Et t'as Benoît de Groult qui disait quelque chose de très fort, c'est qu'aujourd'hui, on est capable d'éduquer nos filles comme nos fils, mais pas l'inverse.
Ah ouais, non, ça... Enfin, heureusement, il y en a... Et on est en train de tendre vers un truc comme ça, mais t'as raison que c'est valorisé de dire ma fille, là, concrètement, là, je te donne un petit exemple, il y a des travaux chez moi pour l'électricité, ma fille adore les travaux, les camions, machin, et le mec qui fait les travaux, il dit « Ah, ben c'est un garçon manqué !» Ah non, en fait, déjà, cette phrase de garçon manqué, je comprends pas. Et c'est inscrit dans nos gènes que les garçons aiment les camions et les travaux d'électricité, les filles, non. Et donc, quand elle aime ça, c'est un garçon manqué, elle est ratée, quoi. Enfin bon, bref, je vois, c'est des trucs... Mais ça qui... Je dis rien, parce que mon mec, il dit non, elle aime... Tu vois, il lui a dit non, elle aime juste ça. Mais sur tous ces sujets, c'est toujours valorisant d'être comme le garçon, c'est jamais valorisant d'être comme la fille. Et c'est un vrai problème. Et ça l'est aussi chez les femmes entre elles. Hein. Moi, combien de fois j'ai entendu des femmes plus jeunes me dire « Ah, j'aurais détesté avoir des filles parce que c'est chiant les filles. Oh » Je me dis « Mais j'ai de la peine pour ces femmes-là. » Parce que je me dis « Comment on vous a raconté que vous étiez petite fille ? Quelle image vous avez de vous-même ? » Moi, j'étais tellement heureuse d'avoir une petite fille. Mais je suis sûre, c'est pas de l'ego, quoi que ce soit. C'est juste que mes parents, ils m'ont tellement raconté, on est deux filles chez moi, que c'est magique les filles, que c'est génial, que ça faisait sens pour moi de me dire, je vais avoir une petite fille, c'est génial. Et j'aurai un petit garçon, c'est génial. Mais j'aurais pu me dire, oh merde, je vais avoir une fille. Et tu sais, je l'ai lu le livre d'Aurélia Blanc, Tu seras un homme féministe, mon fils.
Ah oui.
Et il y a une phrase qui m'est restée de. Je pense que j'aurais eu plus peur d'avoir un garçon. au départ, plus maintenant. Parce que j'aurais eu peur d'enfanter un garçon qui puisse devenir tout ce que je peux dénoncer. Même si c'est inconscient, et ça, c'est quasi impossible, puisque vu l'éducation que tu dois lui donner, logiquement, bon. Mais c'est tellement parfois dur de se dire, merde, moi je veux pas participer à ça. En ayant une fille, je m'extrais de ce truc, parce que je peux pas participer à ça en ayant une fille, forcément. Et c'est triste de me dire, elle l'écrit ça, qu'il y a beaucoup de femmes féministes qui ont peur d'avoir des petits garçons à cause de ça. Et je trouve ça. Et en fait, je me dis non, avoir un garçon, c'est l'opportunité aussi de changer le monde, quand même, ensemble, tu vois.
Ouais, mais après, c'est vrai qu'il y a une vraie problématique, hein, parce que dans le paradigme social, si tu veux, on ne sait pas faire. Aujourd'hui, tu vois, moi, ça fait que depuis très récemment que je dis très ouvertement, tu parlais tout à l'heure de comment est-ce qu'on s'habille. Moi, aujourd'hui, quand quelqu'un me dit non, mais attends, elle ne peut pas s'habiller comme ça. Moi, maintenant, j'hésite pas à répondre. Non, mais c'est pas elle qui s'habille comme une pute, c'est toi qui la regardes comme un violeur. Tu vois, ça calme. Mais parce que le sujet, il est là. Et on en parle. Aujourd'hui, j'ai un épisode qui sort avec un invité masculin et on en parle. Et il a un petit garçon. Et on se pose la question, tu vois, de se dire c'est ce qu'il y a de dingue dans notre société, c'est qu'on a des parents, tu vois, à l'adolescence qui peuvent être inquiets pour leur fille. Qu'elle se fasse agresser, tu vois, ta fille sort le soir, tu te dis j'espère qu'il va rien lui arriver, qu'elle va pas se faire agresser, emmerder. Mais jamais quand t'as un garçon tu te dis ah, j'espère que mon fils il va pas aller faire une agression sexuelle, il va pas être, jamais tu te dis ça.
Alors forcément il y en a.
Tu vois, mais c'est ça, parce que pour qu'il y ait des agressions sexuelles et des viols, alors on utilise des mots qui sont forts, mais juste pour rappel, ce sont les vrais mots, hein. C'est tout, hein. Pour que ça existe, il faut bien qu'il y en ait qui les fassent. Alors ça peut être dur pour toutes les mères qui peuvent nous écouter de se dire que leur fils peut éventuellement avoir ces comportements-là, il faut l'admettre.
C'est sûr qu'il faut le voir, mais tu vois, de ce que tu disais, par exemple, moi, mon père ne nous a jamais dit, de mes copines, tu vois, moi j'avais le droit de sortir tout le temps, c'est très drôle, j'ai jamais eu d'interdit sur les sorties et je suis la seule de mes copines qui n'a pas fait de conneries, parce que moi j'avais le droit, parce que mon père, ma mère, ils se disaient, ah bon, mais la seule règle, c'est tu nous dis l'heure à laquelle tu rentres. Par contre, c'est une règle. Si tu rentres pas à la bonne heure, tu pourras plus sortir. Donc, mais évidemment, j'étais toujours à l'heure. C'était génial pour moi. J'avais le droit. Et mon père ne m'a jamais mis en tête que j'étais potentiellement en danger. Donc ça, je trouvais ça bien aussi parce que du coup, j'étais pas craintive des hommes non plus. Ça n'empêche pas qu'il y ait de l'éducation autour, que ça peut arriver, que il y a tout le monde, pas le monde des bisounours. Mais moi, l'image que j'ai des hommes de base, c'est des gens bien. Et c'est au fur et à mesure de mes expériences que je me suis rendu compte, ouais, bon, bah, quand je sors de ma sphère privée, évidemment, le sexisme, il est quand même. Mon père, il faisait pas la vaisselle, il faisait pas les courses. Voilà, on était quand même dans une répartition assez classique des tâches ménagères, on va dire. Mais je veux dire, dans l'image qu'il nous a transmis à ma sœur et moi, des hommes, en tout cas, par rapport à notre sexualité, par rapport à nos choix. Mais jamais mon père, il m'a dit, tu feras comme je te dis et je veux pas que tu sortes avec tel mec. Mais jamais. Mon père a toujours dit, mais je vous fais confiance. Et depuis toute petite, et c'est tellement important, et je le vois par rapport à mes copines qui n'ont pas eu ce discours-là, à quel point ça a un impact. Et moi, j'ai déjà dit à Clément, je dis, ce discours, il va falloir que tu l'aies souvent envers elle. Tu lui fais confiance. Et c'est ses choix, elle fera ses erreurs, mais tu lui fais confiance. Et si le premier homme avec qui elle a une interaction lui fait confiance, ça change tout aussi. Et ça ne m'a pas empêché de me faire agresser quand j'avais 16 ans. Ça n'a pas empêché que ce soit mon père qui soit là et qui ait conscience de ça. Et ça n'a pas empêché ma vision. J'ai été très craintive après sur beaucoup de choses parce que j'étais ado et que c'était très compliqué. Mais comme j'avais cette fondation très forte de relation père-fille, ben c'est très important pour la suite. Et c'est, je pense qu'il faut que les pères ils s'en rendent compte que oui, on va rencontrer en tant que fille des problématiques qui leur échappent. Et ils ne pourront pas protéger, comme la mère ne pourra pas protéger sa fille, peu importe, homme, femme. Mais si on a eu une relation avec notre père qui est saine sur la façon dont notre père voit les femmes en général, ben, ça change tout. Et je pense quand même que le fait que 2 ans après, j'ai réussi à dénoncer ces violences sexistes, c'est aussi parce que je savais que mon père, il trouvait ça anormal, quelque part. Et ma mère, évidemment, bien évidemment aussi. Hein, je n'omets pas tout le travail d'éducation que ma mère a fait. Mais je pense quand même qu'entre la relation homme-femme, elle est importante, cette relation père-fille, quand il y en a une qui est saine. Et je voudrais juste dire au père qui écoute que c'est pas peine perdue d'être un modèle hyper positif et bienveillant. Ça n'enlèvera pas les risques qu'il y a de la vie. Bah, c'est comme ça. Mais ça voudra dire que vos filles, elles auront une fondation tellement forte que ça élimine beaucoup de problèmes.
Elles pourront, ouais. De ce que je comprends, c'est ça t'a permis de ben justement de réussir à avancer malgré parce que tu avais une fondation solide sur cette relation homme-femme.
Et puis, et ma vision de l'amour, de la relation, ça, encore, je suis très honnête là-dessus, on ne parlait pas beaucoup de sexualité, même si c'était admis que je faisais ce que je voulais. Mais par contre, sur ça, je pense que moi, je voudrais qu'on fasse un travail plus fort avec mon mec par rapport à la sexualité, qu'elle a le droit de dire non. Parce que je pense que sur ça, moi, il y a eu des fois où je me suis retrouvée dans des positions de me dire, parce que c'est la culture. Pas que du viol, mais patriarcal, où les femmes, on doit faire plaisir, on doit dire oui. Et je pense qu'il y a eu des fois où clairement, j'ai pas eu assez de confiance en moi là-dessus. Et je blâme pas du tout mes parents. Je pense que c'est des discussions qui sont difficiles à avoir. Mais je sais que moi, avec ma fille, je voudrais avoir cette discussion claire et nette que elle veut pas, elle veut pas. Il a envie de faire quelque chose qu'elle veut pas, elle veut pas. Et il y a aucune honte et elle n'a pas à se forcer. Et ça, ce discours, on commence à l'entendre. Sur les réseaux sociaux, ça marche beaucoup. La parole se libère sur la sexualité des femmes et c'était pas le cas il y a 15 ans quand j'ai commencé à avoir une sexualité. Donc forcément, on évolue, donc tant mieux. Mais je sais que ça, par contre, c'est un point que moi, je veux améliorer par rapport à ce que j'ai reçu comme éducation.
Ben c'est sûr que sur la sexualité, il y a, comme tu dis, il y a différents sujets. Il y a déjà cette question de consentement et de où est le plaisir et de comment aussi ce plaisir peut arriver. Il y a la question du plaisir féminin qui est clairement un vrai sujet. Et il faut juste se rappeler que les études sur le clitoris, hein, c'est début de notre siècle, hein. Non, mais
Donc, il y a 20 ans.
il y a du boulot, donc faut peut-être qu'on prenne la main. J'en profite pour toutes celles et ceux qui nous écoutent. J'ai eu une information il n'y a pas longtemps. J'ai une information dans la semaine qui est très intéressante, qui me vient du planning familial. Pour info, vous avez droit à 3 rendez-vous gratuits de la primaire jusqu'à la fin de l'adolescence de votre enfant. 3 rendez-vous par an pour aborder les sujets de sexualité et sensibilité avec des professionnels. On peut se rapprocher des plannings familiaux. Voilà,
Ah,
c'est
c'est
un
bien ça.
message que je passe. Ouais, tu savais, toi?
Non, non, mais je
Mais
trouve
moi,
ça
je savais
super.
pas, tu vois. Et je trouve ça super chouette. Et voilà, mais après, c'est vrai que c'est un gros sujet. Alors, je t'avoue que moi, c'est quelque chose que je veux aborder avec ma fille. J'ai du temps pour me préparer parce que je sais pas encore comment, mais c'est quelque chose que je vais aborder avec elle. Le sujet du consentement, évidemment, ça sera important. Le sujet de son plaisir, ça sera important aussi. Donc, je laisserai sûrement les détails techniques à sa
À ta
mère,
femme.
mais on peut quand même parler de plaisir féminin sans, je pense que si un homme lui dit. Sans entrer dans le détail technique, que son plaisir est important et que si elle n'a pas envie ou si elle n'a pas plaisir à faire quelque chose, ben, faut juste qu'elle le fasse pas. C'est important aussi, tu vois, que ça vienne aussi d'un homme, qu'elle l'entende, parce que c'est vrai que
Ah, c'est très important. Enfin,
ces
en plus,
constructions-là,
bon.
c'est chaud.
Là, je te parle de relations hétéronormées, hein, parce que si ça se trouve, ma fille, elle sera gay et il n'y aura même pas de sujet là-dessus. Mais
Aucun problème.
c'est quand même important. Et tu sais, c'est drôle, ça me fait penser que je pense que ta fille, c'est pareil, mais bah, nos enfants, ils touchent leur appareil génital. Les
Eh
garçons,
oui.
évidemment, mais les filles aussi, contrairement à ce qu'on peut
Sûr.
s'imaginer. Et donc, des fois, bah, je pense qu'elles touchent son clitoris et qu'elles jouent avec, et comme les petits garçons touchent leur pénis. Et j'ai déjà dit à Clément, je dis quand elle fait ça, il faut lui dire est-ce que ça te fait du bien? Est-ce que tu sens. Et faut surtout pas lui dire hé, hey, on touche pas, on met pas la main, c'est sale, voilà. Comme ça aurait pu être, parce que c'est gênant au départ quand on y est confronté, si on n'est pas habitué à ça. Et j'ai lu un livre là-dessus qui était hyper intéressant, donc je sais que maintenant je lui pose la question est-ce que ça te fait plaisir? Si tu as envie de te toucher, tu peux te toucher, tu as le droit. Parce que si dès l'enfance on lui dit c'est sale cet endroit, c'est pas pour toi, tu dois. Qu'on ne dirait jamais au petit garçon, hein. On va pas lui dire, on va lui dire fais ça plus loin, mais on va pas lui dire c'est sale, touche pas. Bon, je pense la plupart du temps. Mais ça aussi c'est hyper important dans
Mais complètement.
la construction, vu qu'on sait le cerveau il imprime tout là maintenant. autant le faire maintenant.
Mais t'as tout à fait raison, et en effet, je sais pas quel livre tu as lu, mais on a peut-être lu le même, mais c'est en effet la bonne réaction. Il faut laisser. Après, comme on peut le faire aujourd'hui avec un garçon, parce que c'est vrai, moi je trouve que t'as totalement raison de dire les garçons, on laisse faire, mais c'est vrai, combien de fois on a dit, combien de fois moi petit, alors voilà, truc super intime, mais combien de fois ma petite, je me rappelle très bien, non mais laisse-le, il joue avec son zizi, c'est normal, il découvre. Mais jamais
ouais, voilà,
j'ai entendu.
Découvre.
Voilà, j'ai jamais entendu dire ça pour une petite fille. À date, jamais. Hein. Jamais.
Bah moi, je le fais.
Ah, ben super. Mais mais je trouve ça génial. Et je sais que je ferai pas avec ma fille. Je vois aujourd'hui ma fille, moi, tu vois, qui. Des fois, tu sais, quand tu fais du cheval ou quoi, tu vois, ça se frotte un peu et il se passe quelque chose. Après, voilà, faut que tout le monde soit à l'aise. Par exemple, moi, tu vois, un de mes principes, c'est que si c'est sur moi qu'elle se frotte, moi,
ah,
je suis pas
oui,
à l'aise, j'arrête.
C'est normal.
J'arrête.
Ouais.
Clairement, c'est pas possible. Après, s'il y a du monde, bah, peut-être lui apprendre qu'elle peut. C'est pas un souci. Que ça lui fait du bien et que c'est chouette. Peut-être pas que c'est... Voilà, peut-être le faire dans un endroit plus où elle va
intime,
être plus
sûr.
Isolée. Voilà, tu vois. Mais oui, c'est chouette. Et ça, c'est une belle évolution. Parce que ça, je trouve aussi que ça peut... Alors, là, attention, c'est l'homme qui donne son avis et qui ne sait pas s'il a raison, ce que je veux dire. Je trouve que connaître cette puissance en son corps, si tu veux, je fais le parallèle aussi avec la grossesse, connaître cette puissance du corps de la femme vis-à-vis de son plaisir, ça peut aussi être un apport de confiance énorme.
Ça. Et même vis-à-vis de l'accouchement, vis-à-vis de tes relations sexuelles tout court, mais t'imagines quand même que pour beaucoup de femmes, on découvre la puissance de notre périnée au moment d'accoucher. C'est un vrai souci quand même. C'est la base de notre intimité. Si notre périnée est relâchée quand on a une relation sexuelle, ça fera pas mal. S'il est tendu, ça fera mal. Et si personne nous a appris ça avant d'avoir un enfant, donc quasiment vers 30 ans, c'est chaud. Tu vois, et là
oui.
Je me dis, il y a un vrai souci, tu vois. Ça, ma fille, elle saura à 8 ans, elle saura ce que c'est son périnée, ce que ça produit. Non, mais sérieux, moi ça m'a choqué de découvrir à cet âge là quoi, parce que ma mère elle a pas eu d'éducation autour de ça, parce que ça s'est pas transmis. Et alors que vous, tout ce qui tourne autour de votre sexualité, c'est transmis très rapidement, ou en tout cas, vous avez pas une découverte incroyable à 30 ans, tu vois, comme nous on peut avoir.
Eh bien alors figure-toi que si ça peut arriver parce que, comment dire, on a complètement vrillé le sujet mais c'est pas grave, mais si tu veux, tu peux, en fait t'as une découverte de la sexualité, mais une découverte de la sexualité qui est très pénétrocentrée.
C'est vrai.
Tu vois, c'est-à-dire, voilà, il faut, en plus, souvent les générations malheureusement sont élevées au porno mainstream, tu vois, et voilà, et il faut y aller fort, il faut y aller dur, il faut que ça dure longtemps. Il faut, voilà, t'as toute cette partie-là, et même pour son propre plaisir d'homme, parce qu'il y a d'autres choses que le pénis, c'est le fait de le faire rentrer dans quelque chose pour avoir du plaisir, tu peux le découvrir sur le tard. Hein.
C'est vrai, non, t'as raison.
Tu vois,
mais
on t'apprend
plus
une sexualité, en fait.
De la mécanique de notre corps.
Ouais, ah oui, non, mais ça, c'est sûr. Non,
tu vois, sur ça.
Moi, j'ai encore en mémoire mes cours d'éducation sexuelle au collège. J'ai jamais vu la photo, enfin le dessin d'un clitoris tel que je le connais aujourd'hui, si tu veux.
Ah, c'est vrai. Oui, non, moi non.
Eh oui.
Au moins nos filles grandiront avec ça, tu vois.
Et j'espère, mm-hmm. J'espère que ça sera. Enfin, nous, on leur transmettra en tout cas, et peut-être que dans un avenir plus ou moins proche, ça sera enseigné à l'école. Mais ça serait chouette en tout cas. Ça serait une belle avancée.
C'est clair.
On a traité beaucoup de sujets. Clémentine, c'est super chouette, en tout cas je passe un excellent moment. Je vais te poser la même question que je pose à tous mes invités en fin d'interview. Si tu devais comme ça, voilà, donner un ou deux conseils aux parents et aux parents en devenir qui nous écoutent, ça serait quoi?
C'est dur cette question, sur les conseils.
Alors attention, je reprécise encore une fois, c'est bien conseil et pas injonction. Hein.
Non, bien sûr, je pense que ce qui m'a manqué le plus, c'est d'écouter ce que je ressentais. Il m'a fallu beaucoup de temps pour admettre que non, j'étais pas prête à retourner au travail, que oui, être dans une bulle incroyable avec son enfant, c'est sain, contrairement à ce que la société veut te faire croire, et que si c'est ça dont tu as besoin à ce moment-là, fais-le. Si tu as besoin de repartir travailler vite, fais-le, mais fais ce qui fait que ta santé mentale est préservée, parce que même si c'est pas toujours l'idéal pour l'enfant, c'est quand même sur le long terme plus positif, ce qui ne veut pas dire qu'il faut abandonner son enfant, mais ou trouver des solutions alternatives, mais faire en sorte que soi-même on soit en accord avec ce qu'on ressent. Et ça, je me suis rendu compte en devenant mère que fallait pousser les portes blindées pour arriver à pas culpabiliser de ressentir ce genre de choses. Tu vois, moi, je parle jamais de maternage proximal, tout ça, parce que c'est pas mon vocabulaire, mais je sais très bien que c'est plutôt ça que j'ai fait. Parce que pour moi, ça devrait juste être la norme. Tu vois, comme quand on dit l'éducation bienveillante. Non, ça devrait être l'éducation.
Ça devrait être l'éducation.
Voilà. Et la façon de se comporter avec nos enfants qui est catégorisée maternage proximal, ça devrait être l'opportunité pour toutes les mères et les pères de pouvoir le faire. Donc souvent, en fait, on l'a au fond de nous, ce sentiment qu'on veut être très proche de nos enfants, mais toute la société nous dit « Ah non, non, tu vas en faire des tyrans, ne le fais pas. » Donc si vous avez ce sentiment au fond de vous, s'il y a quelque chose que vous sentez, pour moi, c'est le seul truc qu'il faut retenir, c'est ben, « Allez-y. » Et après, il existe tellement de ressources aujourd'hui pour arriver à aller gratter sur les sujets sur lesquels on est porté, qu'il ne faut pas hésiter, quoi. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes... tu vois, moi, par exemple, je sais pas, la diversification menée par l'enfant, je trouve ça chouette, mais ça ne me passionne pas. Donc, je n'ai pas lu beaucoup de choses dessus. Ça me passionnera peut-être pour ma deuxième fille. Hein, mais il y avait d'autres choses avant qui me passionnaient et j'y suis allée à fond. Donc, je pense qu'il ne faut pas se priver de ça.
Eh bien, je pense que tu as tout à fait raison. En tout cas, je te rejoins complètement. Dans les ressources, je le dis une dernière fois, je le répète, moi, je recommande le podcast La Matrescence, qui est plein de bons conseils aussi pour les hommes. Non, je le dis, je le répète, aussi pour les hommes, vous n'allez rien perdre de votre virilité en allant écouter ce podcast, bien au contraire.
Que j'ai beaucoup d'hommes qui écoutent, parce que j'ai un public très rugby et que comme ils m'ont identifié en, c'est super chelou, mais comme quelqu'un qui fait partie de leur monde parce que je peux parler de sport, parce que je fais partie de ça, je suis autorisée à parler de parentalité et ça a un impact fort sur eux. Vraiment, je te jure que dans la rue, il y a des hommes qui m'arrêtent maintenant. C'est plus pour me dire « je vous ai vu à la télé, merci », c'est « merci pour le podcast ».
C'est super.
Improbable. Donc, je te rejoins, les hommes, venez écouter.
Mais c'est super parce que c'est comme ça que ça va changer. Je te remercie beaucoup pour cette interview, Clémentine.
Non, merci à toi, c'était très chouette. J'en aurais pu parler encore des heures, je pense.
Oui, il y a moyen. Ouais. Mais on en fera une autre.
Avec plaisir.
Merci beaucoup, Clémentine. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt. Hop, c'est encore moins. Si tu veux soutenir le podcast, tu peux aussi t'abonner à Papatriarca Plus et découvrir chaque semaine un épisode bonus en plus des 60 déjà disponibles. À découvrir sur tes applis de podcast comme Pocket Cast, Castbox ou encore Apple Podcast. À très vite.